Alors donc, les mesures sanitaires dans les zones rouges sont maintenues jusqu'au 23 novembre. Hier, le premier ministre Legault a dit qu'on va réévaluer dans 2 semaines. Donc, on verra à ce moment-là. Et est-ce que ça pourrait dépasser le 23 novembre? On verra. Ça dépend de quoi? Bien évidemment, des indicateurs. On sait que depuis quelques jours, on a atteint un certain plateau au niveau des cas. Au niveau des hospitalisations, ça semble vouloir aussi. Mais c'est un réseau, un système de santé qui demeure extrêmement fragile. Les Québécois ont beaucoup de questions. Notre invité ce matin est le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Beaucoup de questions des Québécois, et la première, je vous la pose, là, c'est celle que j'entends le plus depuis quelques jours. Là. Quand vous dites le 23 novembre, on comprend là, que vous prenez ça, comme on dit, un jour à la fois. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, où l'Europe, par exemple, est devenue l'épicentre de la pandémie, qu'on est en train de resserrer, est-ce que vraiment on peut penser terminer l'année avec des mesures allégées? Est-ce qu'on n'est pas parti pour un bon bout de temps là, avec ce qui n'est pas du confinement total comme au printemps, mais des restrictions dans les contacts, surtout que le temps des fêtes approche?
En fait, ce que les Québécois nous demandent, M. Arcand, surtout, c'est de la prévisibilité. Je pense que les gens nous ont demandé là, au cours des dernières semaines, puis on l'a entendu, de pas être en yo-yo. On n'est pas là-dedans pour faire plaisir aux gens. Les gens nous demandent de gérer, puis de gérer de façon à protéger ce qu'on doit protéger, c'est-à-dire notre réseau de la santé, et en même temps permettre aux enfants d'aller à l'école, puis au plus de citoyens possible de pouvoir travailler. C'est ça qui est notre objectif. Est-ce que vous me demandez si on fait ça au jour le jour? La réponse est oui, parce que ça évolue. Moi, j'aime beaucoup la comparaison que vous faites avec l'Europe. Vous le voyez, hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment en France. Si cette vague-là nous frappait aujourd'hui, l'équivalent de la France, on serait à peu près à 6000 cas par jour, et non à 800-900 comme on est présentement. Alors, je pense que si les gens nous demandent où est-ce qu'on va être rendu le 23 novembre, ben moi, je vous dirais, dépendamment de l'effort qu'on va continuer à faire comme citoyen, on pourrait avoir des bonnes nouvelles à la fin novembre, mais moi, je veux pas promettre l'impossible. Je veux qu'on soit réaliste. On a réussi à limiter l'éclosion, c'est-à-dire de se retrouver maintenant sur un plateau. Mais le premier ministre l'a bien expliqué hier, M. Arcand, il faut baisser le nombre de cas quotidiens pour protéger notre réseau de santé. Moi, en ce moment, là, c'est sur ça que je m'assure qu'on met toutes nos énergies, baisser le nombre de cas quotidiens.
OK. Il y a deux questions importantes pour les Québécois, je pense. La première, là, ça concerne la période du temps des fêtes. Là. La tentation de se regrouper, d'avoir des rassemblements à l'intérieur, parce qu'on va être au mois de décembre et au mois de janvier, va être forte. Il est à parier que les gens vont être peut-être moins prudents, plus inconscients peut-être aussi. Là. Ça va être quoi, Noël, selon vous? Je le sais là, que vous n'avez pas une boule de cristal, mais en même temps, là, vous regardez ça et vous dites, je pense que les gens n'ont pas intérêt à faire un paquet d'invitations. Là.
Ben, écoutez, vous me faites penser à mes amis qui m'appellent, à ma conjointe. Je ne le sais pas, monsieur. Je ne le sais pas, monsieur Arcand. Je vais être transparent avec vous. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour le dire. Moi, j'aimerais bien ça, qu'on puisse laisser aller quelques mesures, qu'on soit capable d'aller dans un restaurant, même à 2 personnes, pour fêter un petit peu ou recevoir un ami. Mais je vous le dis, il est trop tôt. Je pense, allons-y. Je pense qu'on a un beau succès. Comme Québécois, là, on a eu un beau succès dans le dernier mois. Vous allez me dire, mon Dieu, il est plate de dire que c'était un succès. Mais on a réussi à pas être plus dans le trouble. On a réussi, dans les dernières semaines, à contrôler cette vague-là. J'aimerais ça qu'on ait le même succès dans les 4 prochaines semaines. Dans 2 semaines, quand je vais revenir vous voir, puis on va être rendu à la mi-novembre, bien, j'aimerais ça qu'on dise, regardez, il y a une tendance à la baisse dans le nombre de cas, dans le nombre d'éclosions. Voici, elle est où, notre situation dans certains hôpitaux. Parce que je reviens souvent avec ça, vous le savez, sur le réseau de la santé. Quand ça s'est mis à exploser, les éclosions à Québec, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est qu'on est obligé de faire du délestage. Et c'est ça qu'on veut pas qu'arrive. Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais ça vous parler du temps des fêtes, puis j'aimerais ça commencer à rêver de revoir nos amis puis nos familles. Mais en ce moment, je pense qu'il est trop tôt. Mais donnons-nous une marge de manœuvre. C'est ça que j'aimerais que les Québécois se disent. C'est si on continue à faire les efforts, ben peut-être qu'on va avoir la marge de manœuvre pour se faire quelques petits cadeaux. Mais on n'est pas là.
OK, mais en même temps, si je pense à l'éducation, et le syndicat, la FAE, a raison de dire si on se retrouve dans une situation où, sur le plan de la santé publique, il est préférable de retarder le retour en classe, la rentrée au mois de janvier, bien, ça s'organise, ça se prévoit, on ne peut pas décider ça à dernière minute. Est-ce que ce serait prudent de dire, compte tenu des contacts qui vont avoir lieu dans le temps des fêtes, prenons un peu plus de temps, repoussons la date de retour, puis à ce moment-là, bien, on aura comme une quarantaine où les gens ne seront pas trop affectés?
Écoutez, moi, c'est pas à moi là, de dire ça aujourd'hui, parce que vous le savez, on a quand même des analyses très scientifiques qui nous viennent de la santé publique puis de différents experts. Mais le premier ministre, il a dit une chose très claire. La priorité, c'est l'école. Je pense que les parents sont heureux qu'on a mis ça de l'avant dans les derniers mois. On le voit qu'on a quand même 97 % de nos enfants qui sont à l'école. On a même eu une rétraction du nombre de classes qui étaient fermées. On est passé maintenant à 800 classes alors qu'on était monté jusqu'à 1000. Alors donc, je pense que pour les écoles, à date, ça a été une très bonne décision. Mais encore une fois, s'il y a d'autres façons de faire au cours des prochaines semaines, dépendamment comment la situation évolue aussi, c'est un peu pour ça qu'on a demandé, on a fait la même règle pour les élèves de secondaire 3 qu'on avait secondaire 4 et secondaire 5, parce qu'on s'ajuste au fur et à mesure qu'on voit où sont les éclosions et les cas les plus difficiles. Okay. Alors, si vous me demandez si on est flexible, je pense qu'on l'a montré pas mal là, dans les derniers mois, qu'on s'ajustait à la situation.
OK. Les décès qui ont été enregistrés, disons, depuis septembre, là, c'est quoi le portrait? Personnes âgées, personnes vulnérables, principalement, là, si vous aviez...
Principalement, oui.
Principalement,
oui.
C'est ça?
Ah oui, oui. Ce qui est arrivé, puis c'est un petit peu ce qu'on disait, les jeunes qui ont été plus impactés là, depuis le mois de septembre ont contracté le virus, mais c'est pas eux autres qui en décèdent, mais c'est normal, ils sont plus forts, c'est toujours la même chose. Le virus, dans la contamination, finit par passer des jeunes aux moins jeunes, aux plus vulnérables, et c'est eux qui décèdent. Mais je vous dirais, dans 80-85% des cas, c'est des gens qui ont 70 ans et plus, et qui étaient déjà vulnérables, parce qu'il y avait certaines maladies, etc. Mais c'est vraiment pour ça qu'il faut faire attention dans la communauté pour pas que le virus se rende jusqu'à nos personnes okay. vulnérables.
Les cas COVID, là, hospitalisés et aux soins intensifs, ça représente actuellement quel pourcentage de la capacité des hôpitaux au Québec?
Bon, nous, ce qu'on avait dit dans cette deuxième vague-là, là, c'est qu'on voulait, pour minimiser l'impact de façon générale de ce que j'appelais le délestage tout à l'heure, M. Arcand, ouais. c'est que on disait, par exemple, pour la région de Montréal, c'était à peu près 1200 hospitalisations. Ben, on est rendu à peu près à 300 pour Montréal. Ça veut dire que, en théorie, vous allez me dire, il nous reste de la place. Mais on a quand même déjà 100 personnes qui est au soin intensif. Et ça, là, chaque personne qui est au soin intensif ou qui est dans un hôpital pour un cas COVID, ben, c'est quelqu'un qu'on soigne pas sur la liste d'attente des chirurgies. Et c'est ça qu'il faut que les Québécois nous aident. C'est qu'à chaque fois qu'on enlève un cas COVID, on permet de soigner un Québécois qui est sur la liste d'attente. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je pense que c'est comme ça que de plus en plus les Québécois comprennent que l'effort qu'on fait, c'est pas juste pour sauver des vies, c'est important, mais l'effort, c'est pour permettre aux citoyens de continuer à se faire soigner. Et pour moi, encore une fois, avec un système aussi fragile, ben c'est ça qu'il faut continuer okay, de faire.
Mais ce que je veux dire, je comprends l'objectif, mais actuellement, et prenons le cas de Montréal, vous avez encore de la marge pour traiter, opérer, faire des examens pour les patients non-COVID?
Il nous en reste de la marge, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que voyez-vous, là, depuis le mois de fin d'août, début septembre, dans le réseau, là, on a perdu à peu près 2000 personnes. Et ça, là, c'est 2000 infirmiers, infirmières, des préposés qui sont tombés au combat puis qui peuvent pas faire le service. Alors, c'est pas théorique ce que je vous dis là. Il nous manque de personnes. Il nous manque de personnes. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on puisse négocier avec nos infirmières puis avoir une solution avec eux. Parce que s'il y a plus de personnel à temps plein, ben on va avoir plus d'infirmières qui vont venir nous aider. Mais on a une situation très, très fragile.
OK. Vous avez dit, on n'est pas dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées dans la même situation que le printemps dernier. Or, pourtant, je vois des cas, là, des gens qui me soumettent des chiffres. Radio-Canada fait un palmarès. Dans un centre, il y a 19 patients décédés, 68 employés infectés. Ça se peut-tu que l'info ne remonte pas jusqu'à vous ou qu'elle remonte sur le tard pour être capable, après ça, de dire, ben, finalement, on a peut-être un problème plus important qu'on pensait?
Non, non. On n'est pas du tout dans le même film que la première vague. Premièrement, on a mis... Non, je vais être très transparent avec vous sur les CHSLD. Il faut que les citoyens comprennent qu'après 50 quelques jours de première vague, là, j'avais 3000 cas dans les CHSLD. Aujourd'hui, j'en ai pas 400. Alors, on parle là, de 8 ou 9 fois moins qu'on avait dans la première vague. Alors, mais ça, c'est pour un ensemble de raisons. C'est les mesures de protection qu'on a faites, ce qu'on appelle protection des infections, les masques, etc. On a un environnement qui est très différent. Est-ce qu'on a quelques cas, il y en a un, par exemple, à Sainte-Croix, où la gestion n'a pas été optimale? La réponse est oui. Et là, on a envoyé l'équipe du QGIS.
Mais est-ce que vous savez ce que l'équipe a trouvé? Votre SWAT là, que vous avez envoyé dans certains établissements, c'était quoi le problème? Manque de personnel? On se promenait d'une zone à l'autre, c'était quoi?
Il y a un ensemble de facteurs. Là. Tant qu'on n'a pas fini le rapport est en préparation. Mais quand je vais avoir exactement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Mais c'est un cas d'exception. Ça ne reflète pas ce qui se passe dans l'ensemble de nos CHSLD.
OK. Dernière question, M. Dubé. Il y a Sonia Lupien, qui est la directrice du Centre d'études sur le stress humain à l'Institut universitaire en santé mentale, qui dit... On pense qu'en allant petit bout par petit bout, on va réussir à ne pas stresser les gens trop. C'est l'inverse, à mon avis, qui va arriver. Les gens pensent que le stress qu'on a vu en mars est encore le même stress aujourd'hui. Il n'y a rien de plus faux. Ça change tous les jours. Le stress s'en vient chronique. On le voit très bien. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
La réponse, c'est vrai. Les gens sont stressés. On a des enjeux de santé mentale. Mon collègue... Lionel Carman travaille beaucoup là-dessus pour ajouter encore des mesures. On en a fait durant l'été. C'est très, très stressant. Nous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Vous m'avez demandé, je ne veux pas faire de faux espoirs aux gens, mais en même temps, il faut être réaliste. La situation, elle est grave. Je suis content parce qu'elle pourrait être moins pire. Elle est moins pire qu'en Europe. C'est ça que les gens nous demandent, c'est de gérer. Mais effectivement, la santé mentale des gens, elle est mise à mal, puis il faut les aider. Et c'est pour ça que Lionel travaille encore sur d'autres mesures qu'il va annoncer dans les prochains jours.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Au plaisir, M.
Au revoir, Christian Dubé, le ministre de la Santé.